Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, que Dieu vous bénisse. Nous avons prié, nous avons chanté, et maintenant nous passons au principal de notre culte, c'est-à-dire l'étude de la parole de Dieu. Nous étudions la parole de Dieu pour glorifier Dieu, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de certains hommes. D'accord ? Par exemple, Pierre, Jean, hein, et puis aussi des contemporains, Luther, Osborne, des gens magnifiques qui ont fait des choses extraordinaires et certains sont encore vivants pour faire des choses extraordinaires. Et nous parlons d'eux non pas pour les glorifier, mais parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et glorifient Dieu. Amen. Mais qui, là par exemple ce matin, je vais parler de Pierre. Est-ce que vous allez dire, oui mais alors il parle plus de Pierre que de Jésus? Bien sûr que non. Mais il est arrivé des choses à Pierre qui sont utiles pour notre édification. Donc on parle de Pierre. Mais il n'y a pas que Pierre qui a fait des choses bien. Moi, j'en ai fait aussi. Alors, est-ce que je n'ai pas le droit de parler de ce que j'ai fait au nom de Jésus? Si, j'ai le droit. Non pas pour me glorifier, mais pour rendre gloire à Dieu. Des fois, je me rappelle, ça m'a toujours couru après ça, depuis que je suis converti. Comme j'avais eu le troisième jour après m'être converti, un miracle extraordinaire, ce paralytique qui s'est mis à marcher, et je rendais témoignage de ça. Les gens disaient, Michel, j'entends, il est orgueilleux. Non. Moi, j'étais choqué qu'on dise ça. Je ne suis pas orgueilleux. Je suis simplement un témoin. Je raconte pour rendre gloire à Dieu. C'est normal. Voilà. Je voudrais vous lire Acte 3, versets 19 à 21. C'est Pierre qui prêche. Il dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Et qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Alors, on peut vous asseoir. Votre Pierre, il est formidable, il dit que Paul est compliqué, mais lui, il est pas mal aussi dans le genre. Parce que, repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pourquoi ? Pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, quand le peuple se repent, après, il y a des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. Afin qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, c'est-à-dire Jésus. Mais Jésus, quand Pierre dit ça, Jésus, il vient d'être crucifié, il vient de ressusciter, il vient de partir. Et l'apôtre Pierre, il dit, repentez-vous afin que revienne, en fait, Jésus-Christ, celui qui vous est destiné. Il est en train de prêcher le retour de Jésus. Et il dit, Jésus, le ciel l'a reçu, mais il l'a reçu jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire qu'il ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et le rétablissement de toutes choses ne vient que par la repentance du peuple. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'il est en train de dire là. Je le relis, et vous allez le comprendre maintenant que je vous ai expliqué ça comme ça, parce que quand on lit ce que l'apôtre Pierre dit, c'est magnifique, mais avec toutes ces virgules, on a tendance, on peut s'y perdre, et ne pas vraiment comprendre ce qu'il est en train de dire. Il dit, repentez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, à savoir Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ça y est, vous avez saisi? Donc, nous attendons Jésus-Christ, mais il ne reviendra que quand le peuple de Dieu, donc le peuple prédestiné au salut, se repentira et des temps de rafraîchissement viendront dans un premier temps et ensuite il enverra celui qui nous est destiné. Waouh! Pierre et Jean, ils ont dit ça dans le temple. Ils étaient montés au temple vers 3h de l'après-midi et ils sont arrivés là, et à cette époque, vous savez, les gens priaient, les juifs, ils priaient 3 fois par jour, à 9h le matin, à midi et à 3h. On dit les arabes, ils prient, je crois, 5 fois. J'ai appris que, dans le Coran, il est écrit qu'ils peuvent prier, tout ça, c'est 5 fois, ils peuvent les prier le soir chez eux. Alors, il faut leur dire, c'est écrit, il faut leur montrer le verset aussi, pour que dans les entreprises, ils ne profitent pas de tous ces temps de prière pour prier en étant payé, Santé, santé. D'accord? En arrivant, parce que nous, on ne s'arrête pas pour prier à 9h, enfin à midi encore ça va, mais encore à 3h, on pourrait aussi dire, oh, mais c'est la Bible qui le dit, et puis alors voilà, on est payé pour aller prier une demi-heure. Je trouve que ce n'est pas juste ça. Hein? Ce n'est pas le but de ma prédication. C'est juste une chose que je pense là. En arrivant à la porte du temple, Pierre et Jean y voient un homme qui est assis là, un homme qui est boiteux de naissance, tout le monde le connaît. Et c'est les gens de sa famille qui le placent là tous les jours pour qu'il puisse mendier, parce que le pauvre, à cette époque-là, il n'y avait pas de sécurité sociale. Hein. Même si les gens de là-bas venaient ici, il n'y avait pas de sécurité sociale ici, hein. Ça, il ne venait pas. Donc, il mendiait le pauvre. Et puis, Jésus, lui, il avait passé souvent devant cet homme, mais il n'avait jamais rien fait pour cet homme. Est-ce que Jésus l'avait même regardé? J'en sais rien. En tout cas, il n'avait jamais rien fait pour cet homme, toutes les fois. Vous voyez, des fois, on dit, ah, alors tu pries pour les malades, mais il y en a, ils retournent chez eux malades. Ah, tu passes dans les endroits et puis tu ne pries pas pour tous les malades. Mais comment ça se fait? Eh bien, voilà, mais Jésus aussi, lui, donc, il ne guérissait pas tout le monde tout le temps. Peut-être es-tu comme cet homme dans un grand besoin, Jésus est là, tu le sais, tout ça, mais jusqu'à aujourd'hui, eh ben, il n'a encore pas fait pour toi le miracle dont tu as besoin. Et là, en ce moment, ben, tu es là, et puis tu es là, et puis comme lui, comme cet homme, tu es là, toujours souffrant. Ce jour-là, vers 15h, je pense que c'était un petit peu 14h45, parce qu'ils étaient à l'heure à la réunion de prière, eh bien, Pierre et Jean passent donc devant lui, et puis ce mendiant leur demande de l'argent, évidemment. Il ne va pas dire... Il ne veut pas faire un tennis, il n'est pas là pour ça, il veut de l'argent. Donc il demande de l'argent et Pierre, les gens s'arrêtent et fixent les yeux sur lui. Et Pierre lui dit, regarde-nous. Alors cet homme les fixe attentivement, il les regarde parce qu'il s'attend à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il prend le bonhomme par la main droite et il le fait se lever. Et la Bible nous dit au même instant, ses pieds et ses chevilles se sont affermis, et d'un saut, il se trouve debout et il se met à marcher. Alors évidemment, Pierre et Jean ne s'attardent pas, ils rentrent dans le temple, lui, il rentre avec eux, l'ancien boiteux, et il saute de joie. Peut-être que ce n'était pas un paralytique, la Bible nous dit que c'était un boiteux de naissance, c'était peut-être quelqu'un qui avait une jambe plus courte que l'autre. Vous savez que dans mon ministère, je prie beaucoup pour des boiteux, des gens qui ont une jambe plus courte que l'autre. Et certains se sont moqués de moi en disant que c'était du pipeau. Ben alors, hein, c'est terrible d'être boiteux, c'est merveilleux de ne plus être boiteux après la prière. Il ne faut pas se moquer des choses que Dieu fait. Parce que quand on se moque de Dieu, Dieu nous laisse après. Et on rentre dans des tromperies. Donc, le monde regardait cet homme qui était connu pour être un boiteux, qui marche, qui saute, ils le reconnaissent, ils lui demandent ce qui s'est passé. Il ne quitte pas Pierre, il ne quitte pas Jean. Et Pierre, voyant ça, il voit toute cette foule, et ben il en profite pour prêcher. Ce matin, Pierre ne va pas venir ici, Jean ne va pas venir ici, mais moi je suis là, et toi tu es là, et toi tu as un besoin, alors je te dis, écoute-moi, et toi qui es sur internet, écoute-moi. Pierre il a dit, regarde-moi, il n'a pas dit, regarde à Jésus, non, il a dit, regarde-nous, regarde-moi, écoute-moi, là je suis en train d'apporter la parole de Dieu, écoute attentivement. Cet homme s'est mis à écouter attentivement qui? Pierre, qui parlait, hein? Et il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et moi, je te le dis ce matin, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent que je peux te donner. Je n'ai même pas envie de t'en donner. Tu as d'autres besoins. Au nom de Jésus, reçois ce dont tu as besoin. Vous voyez, mes frères et sœurs, et ce n'est pas plus compliqué que ça. Si tu crois comme cet homme a cru, eh bien, tu vas recevoir ce dont tu as besoin ce matin. Toi qui écoutes. Tes péchés ont été effacés parce que tu as demandé pardon à Dieu et il t'a pardonné. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Et Jésus dit, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué? De dire tes péchés te sont pardonnés ou sois guéri? Ça n'est pas plus compliqué. N'attendez pas une cérémonie, n'attendez pas des émotions, n'attendez pas de trembler ou que sais-je. Recevez simplement, écoutez attentivement la parole de Dieu, croyez que je suis un envoyé de Dieu et vous recevrez la parole et tout à fait puissante pour vous délivrer. Maintenant, ce Jésus qui est mort à ta place sur la croix, mort afin que, si tu crois en lui, tu sois pardonné et tu sois guéri, ce Jésus, il est ressuscité et il est remonté vers son Père. Voilà ce que la Bible nous dit. Jésus, maintenant, il est au ciel. Et il nous regarde agir, il nous a appris comment agir. Et maintenant, c'est à nous d'agir en son nom, c'est-à-dire de sa part. Et c'est ce que je fais, c'est ce que les chrétiens fidèles font. Il a dit, voici ceux qui croient, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Si tu crois, des miracles doivent t'accompagner. Avant de revenir, parce qu'il doit revenir, quelque chose doit se passer. Et Jésus ne reviendra pas avant que cette chose se soit passée. Les chrétiens disent, maintenant, les signes sont accomplis parce qu'Israël est redevenu un pays. Oui, c'est un des signes. Mais le grand signe, c'est le rétablissement de toute chose. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que Pierre prêchait. Il a dit qu'il ne reviendra pas avant que le rétablissement de toute chose ait eu lieu. Il ne reviendra qu'à la fin du temps du rétablissement de toute chose. Mes frères et sœurs, nous sommes dans ce temps-là. Ce sont des temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sont des temps? Ça veut dire qu'il y a un temps qui est le début, un temps qui est la chose qui se fait, et un temps qui est la fin de cette chose. C'est des temps du rétablissement de toute chose. On va regarder un peu ça ce matin en profondeur. L'Église catholique a mis beaucoup de confusion pendant 2000 ans sur beaucoup de choses. Ils se sont permis de rajouter des choses fausses au message simple de Jésus-Christ. Et ils ont ôté des grandes vérités du message de Jésus et des choses qu'on trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Pendant des siècles, ils ont fait régner la confusion, les ténèbres de l'ignorance sur le peuple. Mais gloire à Dieu, le Seigneur est en train de tout rétablir. Il est en train de tout rétablir. Qu'est-ce que signifie rétablir? Rétablir signifie remettre dans son état premier. C'est ce que mon dictionnaire dit. Je ne sais pas ce que votre dictionnaire dit. Hein? Deuxième signification du mot rétablir, faire exister de nouveau. Voilà ce que le dictionnaire dit. Quand Jésus dit « Je reviendrai lorsque les choses seront rétablies », il dit « Je reviendrai quand les choses existeront de nouveau ». Quand les choses que j'avais créées, quand les choses que j'avais dites de faire seront faites de nouveau, quand ça sera remis dans son état premier. Amen. Jésus ne reviendra du ciel que quand son Église sera remise dans son état premier d'organisation théocratique, de puissance d'amour et de puissance de miracle. Vous voyez qu'on a du travail. Il ne faut pas se dire, ah, c'est super, nous on vit en communauté, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il y a la puissance de l'amour qui doit être manifestée et la puissance des miracles qui doit être manifestée. Et mes frères et sœurs, cela a été annoncé, ce rétablissement de toutes choses, par l'apôtre Pierre. Des siècles sont passés où tout était bouleversé, tout était mis en chenille, comme on dit en Suisse, c'est-à-dire n'importe comment, dans n'importe quel sens. Et puis un jour, en 1906, lors d'une grande réunion de Pentecôte, des pentecôtistes, il y a un homme qui s'est levé et qui a prophétisé. C'est un homme de Dieu qui s'appelait Charles Price Jones, et il a prophétisé, et je vais vous lire cette prophétie. Cette prophétie-là, elle a été donnée par un homme. Je ne glorifie pas l'homme qui a donné, mais écoutons ce que Dieu a dit au travers de l'homme. Quand un prophète parle, écoutons ce que Dieu dit au travers de ce prophète. Et quand un prophète parle, regardons, est-ce que la chose s'est accomplie? Maintenant, on peut dire, ce qu'il a prophétisé s'est accompli. Maintenant, je vais vous lire la prophétie de Charles Price Jones. 1906. La pleine révélation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci, le Saint-Esprit, révélera à ceux qui cherchent ardemment l'amour et la sainteté. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux de l'Apocalypse. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Dans l'ouverture du plan du salut en Christ se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ce but, l'arche de l'Alliance dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge-ci. Les sceaux du témoignage vivant qui s'y trouvent doivent être brisés. L'arche de l'Alliance qui, dans le ciel, se trouvera présente au milieu des pures vierges de l'Église, là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera également l'arche de l'Alliance. Là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera l'arche de l'Alliance. Avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'Alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ce témoignage. L'esprit de prophétie et le témoignage de Jésus. La puissance de proclamation de ce témoignage sera comme le son d'une puissante trompette parmi les peuples. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie Église qui est née de Dieu. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. La pleine autorité de son nom leur sera accordée, afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils ont reçue. Ce renouveau les différenciera de tous ceux qui feront partie de Babylone, c'est-à-dire de l'Église catholique et issue du catholicisme. L'appel et la préparation de cette Église sans tâche arrivera d'une manière surprenante et cachée. De même que David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur, ainsi une minorité sera amenée à une pleine maturité, c'est-à-dire par un prophète. Mes frères et sœurs, petit troupeau du Seigneur, les temps de rétablissement ont commencé précisément quelques années après. Ça, ça a été l'annonce de ce que ça allait commencer, mais la chose même a commencé le 28 février 1963. Jésus avait prédit qu'il y aurait des signes dans le ciel, n'est-ce pas vrai? Et ce jour-là, le 28 février 1963, un signe est apparu dans le ciel. Le journal, le magazine Life Magazine, a publié la photo de ce signe en couleur. Et j'ai, Alain Metz m'a retrouvé un journal de cette époque-là et je l'ai dans mon bureau avec la photo et l'explication. Et les scientifiques ont fait des calculs trigonométriques et ils ont découvert ceci. Ce signe se trouvait dans le ciel à une altitude de 26 miles, c'est-à-dire à 41 843 mètres, c'est-à-dire presque à 42 km de hauteur. Et ce signe dans le ciel mesurait 30 miles de longueur, c'est-à-dire 48 280 mètres de large, c'est-à-dire presque 48 km de large. Maintenant, on sait que des nuages les plus élevés se trouve environ à 5 000 mètres. Et qu'en tout cas, il n'y a rien qui leur ressemble au-dessus de 15 km de hauteur. Et ce signe était à 42 km. Maintenant, je dis bien, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu se sert d'homme imparfait. Le frère Charles Price Jones était certainement aussi imparfait que moi, peut-être moins que moi, sûrement. Mais ce qui s'est passé là, ce jour-là, écoutez bien, ce n'est pas pour glorifier l'homme, c'est pour glorifier Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu se fait au travers des hommes. Le prophète William Branham était au mont Sunset ce jour-là. Il était en train de grimper dans la montagne parce qu'il était parti avec des amis se reposer dans la montagne. Et soudain, il a entendu une rafale terrible. Il a cru que quelqu'un lui tirait dessus. Au moment où c'est arrivé, 7 anges se tenaient devant lui, lui sont apparus. Il y en avait 3 de chaque côté et un peu plus haut au sommet. Il a été enlevé, emporté vers eux et il lui a été dit: « Retourne vers l'est d'où tu viens et par révélation et vision, Dieu ouvrira les 7 sceaux cachés. » Puis, le prophète a vu ce signe comme un cercle de brouillard, c'est-à-dire ces anges se sont transformés en quelque sorte comme un cercle de brouillard qui montait et ce signe, c'est cela qui a été pris en photo et qui a été publié par le Life Magazine après une longue enquête. Et le 23 avril, donc c'est passé février, mars, avril, en avril 63, ils ont publié cela après, donc enquête des scientifiques qui ont mesuré toutes ces choses. Puis, donc, du 17 au 24 mars, le Seigneur a brisé les 7 sceaux de l'Apocalypse et a donné donc un enseignement au prophète qu'il a lui-même donné à son Église. C'est à ce moment-là, mes frères et sœurs, que les temps du rétablissement de toutes choses ont commencé. Maintenant, par ce message des sept sceaux, le livre existe. Les bandes magnétiques de cela existent. J'ai prêché des dizaines de fois ce message des sept sceaux. Il est sur Internet. Vous pouvez le chercher dans les archives. Maintenant, par ce message des sept sceaux, nous avons la porte ouverte pour enfin chercher et observer les choses sur lesquelles la lumière n'a jamais brillé dans les nations. Nous pouvons être amenés à la maturité en cherchant dans les Écritures, parce que les Écritures maintenant sont ouvertes grâce à l'enseignement qui est donné dans la révélation des sept sceaux, comme ça avait été prophétisé par Charles Price, John, en 1906. Ces choses-là ont été rétablies. Beaucoup de ces choses, beaucoup de doctrines, beaucoup de choses ont été détruites par l'Église catholique et elles sont aujourd'hui rétablies. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Les 9 dons surnaturels de 1 Corinthiens 12 ont été rétablis dans l'Église. C'est par ces dons-là que la guérison peut être donnée au nom du Seigneur Jésus-Christ par imposition des mains. Ça date de là. Il y avait toujours eu des gens qui pratiquaient ça, mais c'était secret, c'était caché, on les brûlait comme sorciers, comme sorcières. Et puis là, c'est devenu un mouvement mondial. Notre frère Branham a influencé les plus grands serviteurs de Dieu qui aujourd'hui prêchent comme cela et font ces choses-là. Plusieurs doctrines qui avaient été faussées par Babylone, l'Église catholique, ont été rétablies. Par exemple, celle de l'unité de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit étant un seul Dieu. Écoute Israël, il n'y a qu'un seul Dieu et qui se manifeste de 3 façons différentes dans son omniprésence, parce qu'il est omniprésent, il peut être partout en même temps et se manifester comme il veut. La doctrine du baptême par immersion au nom de Jésus-Christ a été rétablie comme dans Actes 2, 38. Par exemple, la doctrine de la juste gestion des biens matériels sous la domination du spirituel de l'enseignement de Jésus a été rétablie selon Jean 10, 10 et Malachie 3, 7, 12 avec la dîme. La dîme, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de saint. Je me rappelle d'un homme qui un jour m'a dit qu'il me donnait sa dîme. Et je lui ai dit, mais c'est beaucoup d'argent. Et il m'a dit, de toute façon, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux avec, tu peux aller au pute si tu veux avec. Ça, ce n'est pas donner la dîme à Dieu. C'est donner de l'argent, avec bon cœur, avec générosité, avec gentillesse. Mais ce n'est pas donner à Dieu. On ne dit pas à un serviteur de Dieu, tu peux aller au pute avec. C'est horrible. Ce sont des choses saintes, ce sont des choses sacrées. Le baptême pour les morts a été rétabli selon 1 Corinthiens 15, 29. La doctrine de l'incarnation de Jésus-Christ dans ses disciples fidèles selon 1 Jean 4, 19. Tel il est, tel nous sommes aussi. La doctrine de la vie communautaire selon Luc 14, 33, Acte 2, Acte 4, ça a été rétabli. La doctrine du lavage des pieds selon Jean 13, 13, 15, ça a été rétabli. Et puis le prophète est retourné à la maison. Il est décédé, il est parti. Ben oui, c'est un homme. Mais des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit ont continué dans ce rétablissement. Ont continué dans cette voie du rétablissement. Parmi eux, il y a Oral Roberts, il y a des grands hommes. Et il y a notre cher frère T.L. Osborne en particulier. T.L. Osborne a prêché le 29 décembre 1965 aux funérailles du prophète William Branham à Jeffersonville. Nous avons le sermon qu'il a fait, où il dit des choses extraordinaires. Ensuite, influencé par cet esprit du rétablissement de la vérité, dans cette mouvance-là, T.L. Osborne a parcouru le monde entier, et dans ces réunions, des dizaines de milliers de personnes ont été sauvées, et autant ont été guéries, mais des choses magnifiques se sont produites. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, avait dit Jésus. Pendant des siècles, la croyance a été falsifiée. Maintenant, elle était rétablie juste, clairement, selon la parole, selon la Bible. Et maintenant, ceux qui croient à la Bible, ces choses arrivent. Et puis un jour, en France, T.L. Osborne pointe du doigt un homme dans une réunion de la mission évangélique Zigane. Cet homme, c'était un gitan du nom de Raphaël Duval qui s'est tenu ici il y a encore 15 jours pour vous prêcher la parole de Dieu. Et T.L. Osborne, nous ne le connaissons pas du tout, le pointe du doigt et l'appelle et lui dit « Tu seras Caleb. » C'est quand même bizarre. Pourquoi Caleb? Lisons les Écritures. Deutéronome 1, 34, 36. Pourquoi Caleb? Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ce n'est pas Caleb tout seul, mais c'est lui et ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a une descendance, c'est-à-dire qu'il y a une continuité. Raphaël le Gitan, c'est un homme intègre qui marche conduit par l'Esprit de Dieu et qui suit la voie de l'Esprit. Combien de fois des hommes ont voulu, par exemple même Chivijan, lui a proposé de l'argent, une église, une grande voiture établie là-bas pour qu'il puisse faire des réunions et en lui disant « je vais te faire un programme pour que tu aies des portes ouvertes un peu partout dans le monde » et Raphaël lui a dit « non, parce que moi je vais être conduit par le Saint-Esprit, pas par un homme. » Et maintenant vous avez vu comment il vit. Ah, il vit dans une caravane fendue, mais il est conduit par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui compte, être conduit par le Saint-Esprit. Il marche conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui, par exemple, un jour arrive dans une petite ville qui s'appelle Fréjus. Hein. Il met sa caravane avec toute son équipe et puis il distribue les tracts. Et juste en face du campement, il y avait une épicière, il lui dit... Vous savez, madame, il faut que vous donniez votre cœur à Jésus. Moi, votre Jésus, j'en ai rien à foutre. Et qu'il se moque de lui et tout. Il dit, bon, madame, je vous ai rendu témoignage. Maintenant, vous êtes responsable devant Dieu. Quand même, écoutez, venez nous écouter ce soir à la réunion. Non, non. Il rentre dans la caravane, il mange et tout à coup, Dieu lui parle. Quitte le terrain. Pourquoi? Il n'a pas demandé pourquoi. Dieu lui dit, quitte le terrain. Il sort de sa caravane, il dit à tout le monde, remballez toutes les affaires, on s'en va. Et tout le monde, mais pourquoi? On a distribué les tracts, on a loué la salle, il y a la pub dans les journaux et on s'en va. Mais pourquoi? On est bien là sur ce terrain. On s'en va. Faites comme vous voulez, mais moi je m'en vais. Moi et ma maison, nous partons. Ils ont des maisons avec des roues, hein, les gitans. Et il est parti. Combien d'heures après? 24 heures après, je crois. Une vague de 24 mètres de haut. De boue à passer sur cet endroit en portant tout. Il y avait une voie de chemin de fer, les rails étaient tournés comme des tire-bouchons. C'était le barrage de Fréjus qui avait craqué. Et beaucoup de fois, une autre fois sous un arbre qui s'est écroulé, il dit « tire ta caravane de là ». Mais pourquoi? Je te dis « tire ta caravane ». Et quelques minutes après, l'arbre est tombé sans aucune raison. Tout le monde serait mort dans la caravane. Des choses comme ça. Et c'est lui qui un jour, en Suisse, est venu et il m'a pointé du doigt dans la réunion. Et il a dévoilé mon cœur, et puis je suis né de nouveau. Et trois jours après, les premiers miracles commençaient par un paralytique, ensuite un aveugle, etc., etc. Et ça n'a jamais cessé. Alors, vous voyez, il y a une continuation. Maintenant, il faut être fidèle dans cette continuité. Il faut être fidèle. Mes frères et sœurs, Pierre disait, regarde-nous, parce qu'il avait conscience qu'il était quelque chose d'important dans les mains de Dieu. Si vous n'avez pas conscience d'être important dans les mains de Dieu, si vous jouez au humble en disant « ça c'est du catholicisme, arrêtez, vous êtes rempli du Saint-Esprit pour une œuvre et revêtu de puissance pour faire des choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, arrêtez de jouer au faux humble, sachez qui vous êtes en Jésus-Christ et faites ce que vous avez à faire et soyez ce que vous devez être au nom du Seigneur Jésus-Christ dans la fidélité. » Regarde-nous, il dit. Il ne dit pas « allons vers Jésus, lève les yeux, on va prier pour que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. » Non, il prend autorité, il dit, regarde maintenant, ce que j'ai, je te le donne, ce que j'ai. Il savait ce qu'il avait. Est-ce que vous savez ce que vous avez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous savez où vous en êtes dans votre vie? Le même Jésus qui vivait en eux, il vit en moi ce matin, et je vous dis, écoutez-moi, soyez guéris, soyez bénis, soyez délivrés, soyez enrichis, vous qui vous êtes repentis. Et puis maintenant, vivez comme des gens, guéris, bénis, enrichis. Marchez, sautez, rentrez dans le temple. Nous sommes ou nous ne sommes pas dans la mouvance du Saint-Esprit qui est en train de rétablir toute chose dans son Église. Et Jésus ne reviendra que quand ces choses seront rétablies comme elles étaient au commencement. Au commencement, ni Pierre ni Jean n'étaient parfaits. Au commencement, il n'y avait que Jésus de parfait. Ça n'a pas changé. Mais Pierre et Jean se laissaient guider par le Saint-Esprit. Ils ont commis des erreurs, des boulettes. Lisez la Bible, vous verrez. Ils n'étaient que des hommes. Mais ils aimaient Jésus et ils progressaient sur le chemin de la perfection. Aujourd'hui, dans ces temps de rétablissement de toutes choses, ne vous attendez pas à trouver un William Branham parfait. Il n'est pas parfait, parce qu'il n'est qu'un homme. Mais rejetant l'homme, vous rejetez le message que Dieu lui avait donné. Et ça, c'est grave. Bien sûr que Branham n'était pas parfait. Osborne n'est pas parfait non plus. Nous l'avons reçu chez nous. Nous connaissons cet homme. Il est magnifique. C'est un des hommes les plus merveilleux que j'ai jamais rencontré. Mais il n'est pas parfait. Allons, allons. Et Raphaël, est-il parfait, Raphaël? Non, pas du tout. C'est un homme merveilleux, un homme très gentil, un homme sincère, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas parfait. Et puis moi, je suis encore le moins parfait sur cette liste. Mes frères et sœurs, Dieu nous a choisis pour entrer dans cette mouvance du rétablissement de toutes choses. Alors nous y travaillons avec foi, avec amour, et nous commettons des erreurs parfois, c'est vrai. Mais nous nous relevons et oubliant le passé, nous courons vers l'avenir en nous sanctifiant au plus que nous pouvons. Amen. Amen. Voilà la vérité. Êtes-vous dans ce chemin-là ou est-ce que vous êtes à côté en train de dire « Oui, mais moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas rien du tout. » Enfin, bon. Un jour, le prophète Branham a dit, je vais vous lire ce qu'il a dit, ça vaut la peine. Écoutez bien. Je vais vous lire ça. Pour un petit moment, mais ce n'est pas grave. C'est important. Voilà ce qu'il dit. Voici ce que j'essaye de vous dire. La loi de reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon sa semence, d'après Genèse 1:11. Et Dieu dit que la terre produise la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Selon la vie qui était dans la semence, sont venus une plante et un fruit appropriés. La même loi s'applique à l'Église aujourd'hui. La semence a été à l'origine de l'Église, la semence qui a été à l'origine de l'Église redeviendra selon l'original, car elle est la même semence qui fut à l'origine. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse, semence ou postérité de Christ, viendra à la pierre de fête et elle sera une super église et une super race quand elle s'approchera de lui. Ceux de l'épouse seront si semblables à lui qu'ils seront même faits à sa propre image. Ceci en vue d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la vraie manifestation de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent produire cela. Ce sont de fausses semences. Ils produiront leur credo et leur dogme mélangés à la parole. Ceci amènera un produit hybride. Le premier fils, Adam, était la semence parole parlée de Dieu. Il lui fut donné une épouse afin qu'elle pût se reproduire. C'est pour cela que l'épouse lui fut donnée, pour se reproduire, afin de reproduire un autre fils de Dieu. Mais elle tomba. Elle tomba par hybridation. Ce fut la cause de la mort. Le second fils, Jésus, était aussi une semence parole parlée. Il lui fut donné une épouse, comme à Adam. Mais avant qu'il pût l'épouser, elle aussi tomba. Elle aussi, comme la femme d'Adam, fut soumise à l'épreuve de la parole, soit croire en la parole et vivre, ou douter de la parole et mourir. Elle douta. Elle abandonna la parole. Elle mourut. D'un petit groupe de la véritable semence de la parole de Dieu, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est une vierge de la parole. Elle est vierge car elle ne connaît aucun credo ou dogme fait de main d'homme. Par les membres de l'épouse s'accomplira tout ce que Dieu a promis de manifester dans la Vierge. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie, mais la parole de la promesse, c'est lui-même qui sera manifesté. Dieu a été manifesté. Lui, Dieu lui-même, a agi à ce moment-là et a accompli par la Vierge sa propre parole de promesse. C'est un ange qui apporta le message à Marie, mais le message de l'ange était la parole de Dieu. Ésaïe 9:5. Il accomplit à ce moment-là tout ce qui avait été écrit de lui, car elle avait accepté sa parole pour elle. Les membres de l'épouse vierge l'aimeront et ils posséderont toute sa puissance, car il est leur tête et toute puissance lui appartient. Ils lui sont soumis comme les membres de notre corps sont soumis à notre tête. Notez l'harmonie existant entre le Père et le Fils. Jésus ne fit jamais rien avant que cela ne lui fût montré par le Père, Jean 5:19. Cette harmonie doit exister entre l'époux et son épouse. Il lui montre sa parole de vie, elle la reçoit, elle n'en doute jamais. Donc rien ne peut lui nuire, même pas la mort. Car si la semence est mise en terre, l'eau la fera croître à nouveau. Et voilà le secret. La parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. L'épouse a la pensée de Christ car elle sait ce que Dieu veut qu'il soit fait avec la parole. Elle accomplit le commandement en son nom car elle possède le « ainsi dit le Seigneur ». Alors la parole est vivifiée par l'Esprit et la chose s'accomplit. Comme une semence plantée puis arrosée arrive à son plein épanouissement, accomplissant ainsi son but. Ceux qui sont en l'épouse n'accomplissent que sa volonté. Personne ne pourrait les contraindre à agir autrement. Ils ont le « ainsi dit le Seigneur » ou alors ils restent tranquilles. Ils savent que ce doit être Dieu en eux faisant les œuvres, accomplissant sa propre parole. Il n'a pas achevé toute sa tâche durant son ministère terrestre. Ainsi maintenant, il œuvre et travaille dans et à travers son épouse. Elle sait cela. Elle sait qu'autrefois, ce n'était pas l'heure d'accomplir certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais il accomplit actuellement, par le moyen de l'épouse, l'œuvre qu'il avait réservée pour ce temps-ci spécialement. Tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre terre promise commence à se profiler à l'horizon, comme il en a été pour ces deux hommes. Or, Josué signifie Jéhovah Sauveur, et il représente le conducteur de la fin des temps qui va venir pour l'Église, comme Paul est venu de l'Église du commencement. Caleb représente ceux qui restent dans le vrai avec Josué. Je répète, Caleb représente ceux qui restent dans le vrai avec Josué. Souvenez-vous que Dieu avait commencé avec Israël et qu'il en avait fait une vierge par sa parole. Mais ils ont ensuite désiré autre chose. C'est ce que a fait l'Église du dernier jour. Remarquez que Dieu n'a fait avancer Israël et ne l'a laissé entrer dans la terre promise qu'au temps marqué et choisi par Dieu. Il se peut que le peuple ait fait pression sur Josué, le conducteur, qu'il ait dit « Le pays est à nous, entrons et emparons-nous. Josué, tu es un homme fini, tu dois avoir perdu de vue la grande œuvre à accomplir. Tu n'as plus la puissance que tu avais autrefois. Tu avais l'habitude d'entendre Dieu, tu connaissais sa volonté, tu agissais promptement. Il y a quelque chose de brisé en toi. » Mais Josué était un prophète envoyé de Dieu et il connaissait les promesses de Dieu et il attendait qu'elles s'accomplissent. Il attendait une décision formelle de Dieu et quand le temps d'avancer fut arrivé, Dieu plaça entre les mains de Josué toute la responsabilité de la direction parce que Josué était demeuré avec la parole de Dieu. Dieu pouvait faire confiance à Josué, mais pas aux autres. Dans ces derniers jours, ceci va recommencer, même problème, même pression. Qu'en dites-vous? Voyez avec le recul, on a lu ces choses il y a des années, mais voyez avec le recul, quel privilège nous avons d'avoir été choisis, mes frères et sœurs, pour participer à cette grande œuvre du Seigneur, cette grande œuvre du rétablissement. Il dit aussi dans ce livre, page 528, « Quoi donc? Elle, c'est-à-dire l'Église, doit être la même épouse de la même sorte, construite avec le même genre de matériaux qu'au commencement. » Frères et sœurs, ce que nous vivons est un sujet de moquerie pour certains. Certains disent que mon message n'intéresse personne, qu'il faut simplement que je me borne à l'évangélisation et à la guérison des malades. Certains pensent que nous sommes des fous, une secte ou des gens intéressés par l'argent ou que sais-je. Il faut que nous remettons nos cœurs à l'heure du Saint-Esprit. Ceux qui veulent nous décourager, eh bien, laissons-les à leurs affaires religieuses, ils sont gentils, on les aime bien, mais voilà. Ne laissez ni rien ni personne vous ravir votre joie d'avoir été élu pour vivre ce que nous vivons. Si vous êtes découragé, regardez-moi, écoutez-moi, au nom de Jésus, soyez renouvelés. Amen. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça, si tu crois. Nous ne nous laissons pas attrister. N'écoutons pas le chant des sirènes de ce monde, ni le bruit que font les vierges folles. Ne les écoutons pas. Décidons d'aimer les vierges folles et tout le monde, et restons fidèles. Entrons dans le tabernacle éternel. La porte est en train de s'ouvrir. Frères et sœurs, le songe de Junior Jackson disait qu'il fallait chercher des choses qui n'avaient pas encore brillé dans les nations. Et nous avons beaucoup trouvé de choses qui n'avaient pas encore brillé dans les nations, comme par exemple la vie communautaire, le baptême pour les morts et toutes ces choses. Mais dernièrement, le Seigneur m'a inspiré quelque chose au sujet d'Enoch. Ce livre apocryphe, apocryphe signifie tenu caché. Il était tenu caché par les religieux qui ne voulaient pas que le petit peuple connaisse ces choses. Et maintenant, nous en sommes... J'ai déjà écrit 70 commentaires sur, je crois, il y a 115 versets. J'en ai fait déjà 70. Pour le moment, je crois, il y en a 51 sur Internet. Vous pouvez aller lire ça, lisez ça. Dieu a permis que cela apparaisse dans notre génération. Ces textes ont été retrouvés et authentifiés. Maintenant, on sait que c'est vraiment Enoch, le septième depuis Adam, qui a dit ces choses-là. Dieu nous l'a donné. Où est-ce que vous voyez des pasteurs qui prêchent sur Enoch, qui parlent d'Enoch? Il n'y a pas. À ma connaissance, il n'y en a pas. Je voudrais vous lire et terminer là-dessus ce matin ce qu'on trouve dans le livre d'Enoch au chapitre 93, versets 10 et 11. Écoutez bien. À la fin de la septième semaine, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a sept âges de l'Église. Et là, c'est représenté comme sept temps, comme sept semaines. À la fin de la septième semaine, les élus seront choisis comme témoins de la vérité, de la plante de justice éternelle, et ils recevront au septuple la sagesse et la science de toute sa création. Par eux seront extirpés les fondements de l'injustice ou de l'iniquité, ainsi que l'œuvre du mensonge, à l'accomplissement du jugement, c'est-à-dire à l'accomplissement du rétablissement de toute chose qui en arrive au jugement de l'hérésie. Vous voyez? Voilà ce qu'il disait Enoch. Ben, mes frères et sœurs, on en plein dedans. Le prophète Charles Price Jones disait, l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Jésus. Et il dit, vous ne pouvez le recevoir que par révélation du Saint-Esprit. Si vous ne recevez pas ça, c'est parce que vous n'avez pas la révélation du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vous juger. Nous ne pouvons pas vous condamner. Nous ne pouvons que prier pour vous et c'est ce que nous voulons faire. Si vous ne comprenez pas ces choses, écoutez-moi. Et au nom de Jésus, comprenez. Et je peux vous parler, prendre du temps avec vous pour expliquer. Mais déjà sur Internet, vous avez beaucoup de choses qui expliquent ces mystères. Allez et fouillez. C'est un site riche. Notre frère Rich, frère Eric Ruiz, travaille des heures là-dessus. Là, j'ai fait mettre, vous allez voir la chose, un résumé avec des photos au sujet de ce rétablissement de toutes choses. Vous allez le voir en première page. Cliquez sur cette page, cliquez sur cette photo, vous allez la voir s'agrandir et vous allez pouvoir lire le résumé de ce que je vous dis ce matin. Ce sont des choses importantes. Ce n'est pas de l'orgueil. Nous ne sommes pas en train de nous dire « Ah, nous sommes les meilleurs, c'est merveilleux. » Luther, quand il était vivant, des gens aussi lui disaient « Mais attends, tu crois que tu es tout seul à avoir la vérité ?» Et il disait « Ben oui, j'ai reçu de Dieu ça, et je vous le dis. » Et puis après, d'autres sont venus, et puis il y avait Calvin, et puis il y avait d'autres. Et puis, ils n'étaient pas parfaits. On dit que Luther était antisémite. Ben voilà, il n'aimait pas tellement les juifs, mais ça c'était très courant à l'époque, Luther n'a pas tout compris, puis voilà quoi, bon ben voilà. Et puis Calvin, il n'aimait pas les trinitaires, il en a brûlé Michel Servet. Alors est-ce qu'on va dire, ouais, c'était pas un homme de Dieu, c'était du diable. C'est terrible, mais voilà quoi. Hein? David, est-ce qu'il était parfait, le roi David? Bon, ben allons-y, jetons des pierres, allons, on peut lapider tout le monde, lapidez-moi. Mais alors n'oubliez pas tous les autres, lapidez David, lapidez l'apôtre Pierre, lapidez tout le monde, allez-y. Frères et sœurs, soyons pas comme ça, écoutons ce que Dieu dit et faisons cela. Soyons cela, soyons cette parole, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci de nous conduire dans la vérité, nous te prions Seigneur, tu nous gardes toujours humbles, conscients que c'est ton œuvre, que c'est ta volonté qui est en train de s'accomplir au travers de nous. Que ton nom soit béni, Jésus. Éclaire ceux qui ne comprennent rien à rien. Permets-leur de voir la vérité, d'être dans la sainte doctrine, la saine doctrine, et non pas dans des fadaises, dans des fables que les gens aiment tellement recevoir en ce moment. Ils se donnent des foules de docteurs qui leur racontent des sottises. Ça aussi, tu l'as prophétisé. Tu as dit que cela arriverait en même temps. Père, pardonne-leur ces folies, mais permets que ceux qui écoutent là en ce moment puissent se réajuster sur ce qui se passe dans l'œuvre du Saint-Esprit au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Amen.